Il était une fois une étudiante en communication appliquée qui a parfois l'impression de venir d'une autre planète, même si elle est réellement originaire de Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent. En cherchant sa place dans le monde, elle fait certains choix, en apparence à contre-courant. Toutes ces manières de donner du sens à nos vies, ça la fascine, tant chez elle que chez les autres. Elle aura la chance d'y plonger encore plus en profondeur.
Salut, c'est moi, Amy. Vous écoutez Les histoires qu'on se raconte, un balado de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke. Avez-vous déjà vu une personne à laquelle vous tenez s'engager dans une voie préoccupante ou se débattre avec une détresse troublante? Vous êtes-vous demandé comment lui parler de vos inquiétudes? Comment l'appuyer, peut-être, sans vous perdre vous-même? Ouais, moi aussi. Alors, je me suis demandé, quelles sont les histoires qu'on se raconte sur nos responsabilités face aux autres? Oui, nos responsabilités, au pluriel. Ce qui a commencé comme une quête plutôt personnelle s'élargit assez vite. Pourquoi? Parce que les réponses que j'obtiens entremêlent, le plus souvent, responsabilité individuelle et responsabilité collective. En parlant avec Philippe Roy, professeur à l'École de travail social, je suis marquée par sa façon de décortiquer les étapes qu'on traverse pour demander de l'aide quand on vit de la détresse.
1. Identifier une situation comme étant problématique. 2. Savoir quoi faire. Et puis 3. Passer à l'action.
Constater. Connaître. Agir. Ces étapes-là s'appliquent à toutes les conversations dans cet épisode. Et ils ratissent large. J'ai jasé santé mentale, communication de crise, histoire des luttes pour les droits humains et relations d'aide. À chaque étape correspondent des embûches, des obstacles, qu'ils soient sociaux ou personnels, ou les deux. Parfois, des solutions pour les surmonter existent déjà. Parfois, elles restent à identifier ou à peaufiner. Mais si je retiens une chose, c'est bien qu'on est plusieurs à vouloir que le monde aille mieux. D'ailleurs, d'une certaine manière, Philippe en a fait l'objectif sous-jacent de ses recherches. Il s'intéresse à la promotion de la santé mentale et à la prévention du suicide, spécialement chez les hommes. Discuter avec lui constitue un bon point de départ pour savoir comment reconnaître la détresse, autant celle des autres que la nôtre.
Ça prend toute une communauté pour prévenir le suicide et pour promouvoir la santé mentale positive. C'est sur un continuum. Quand on fait de la promotion de la santé mentale, bien, on fait de la prévention du suicide aussi. Et dans mes champs de recherche, bien, je me suis beaucoup intéressé justement à les hommes qui demandent moins d'aide. Donc, est-ce que notre société donne aux garçons et aux hommes les occasions d'apprendre sur les émotions? Les jeux, les jouets, qu'on va dire plus traditionnels pour filles, ça va être des jeux de relations, donc les poupées qui vont être ensemble. Alors que chez les garçons, bien, ça va être des jeux de construction, des jeux de bataille ou des activités sportives. Si on regarde les couvertures de magazines pour adolescents, dans les 20 dernières années, toujours des thèmes qui reviennent et qui se rapportent aux émotions. Un premier amour, ça ne s'oublie pas. Comment réparer un cœur brisé en 5 étapes. Des autotests, où est-ce qu'on apprend à se regarder aller. C'est des thèmes où est-ce qu'on incite les adolescentes à se poser des questions sur leurs relations, sur les habiletés relationnelles et le vocabulaire émotionnel. Il y a des revues d'adolescentes, mais il n'y a pas de revues d'adolescents. C'est des revues thématiques. On va être sur la techno, sur le sport. L'apprentissage du vocabulaire émotionnel, il se fait ailleurs. Comment il se fait, c'est une question à laquelle j'aimerais ça avoir la réponse. Mais ce qu'on voit, c'est que quand ils arrivent pour demander de l'aide, ben là, on n'est pas trop sûr parce que je devrais-tu être là? C'est-tu pour moi? Il y a une espèce de malaise avec ce sujet-là. Dans une recherche que je faisais dans un groupe focalisé, il y a un papa qui dit, ben clairement, mes enfants, moi, s'ils viennent me voir pour un sujet émotionnel, c'est vraiment parce que la mère n'est pas disponible, parce que clairement, je suis le deuxième choix. Là. C'est un peu une charge mentale aussi, où est-ce que tout ce qui est émotif, ben c'est les femmes. C'est important de travailler là-dessus, parce que les émotions, c'est pas féminin, c'est pas masculin, c'est juste humain. Tout le monde en a. Hommes, femmes, personnes de diverses identités de genre, on a tous le même potentiel, sauf que comment on les exprime, ça peut différer beaucoup. Et donc, de reconnaître qu'une situation est problématique, ben ça peut être particulièrement difficile. Pas juste pour les garçons. Les filles, par exemple, qui ont l'impression qu'ils ne peuvent pas se permettre de demander de l'aide parce qu'elles doivent s'occuper des autres. Alors oui, on a à la fois une responsabilité individuelle de demander de l'aide, mais aussi une responsabilité collective d'identifier les obstacles et vraiment de pouvoir intervenir pour que les gens qui se reconnaissent qu'ils vont pas bien puissent aller chercher de l'aide. Puis ça nous amène à une autre question, c'est de reconnaître aussi qu'est-ce qui fait que les gens ne vont pas bien. Est-ce qu'il y a des pressions qui sont exercées auxquelles il faut résister? Par exemple, les stéréotypes masculins, où est-ce que bon, faut être fort, faut être stoïque, faut être compétitif, agressif. On a une évolution des super-héros il y a une génération, des films Schwarzenegger, Stallone, où est-ce que le gars a deux émotions, normale et en colère, puis c'est la colère qui va motiver l'action vers le triomphe du film. Les films de super-héros aujourd'hui sont un peu sur le même modèle. C'est pas dans la négociation de l'expression des émotions qu'on fait des films de super-héros. Alors, on grandit avec ça, et les garçons et les hommes s'imaginent, voici ce à quoi je devrais ressembler comme homme, et à quoi je pense que je ressemble, ben, ça peut juste être une distance. Alors, plus cette distance-là est grande, puis elle a été mesurée de façon empirique, plus la personne est à risque de dépression et d'idéation suicidaire. Donc, ces modèles-là, ça magane pas mal de monde. Quand on résiste à ces pressions-là, quand on résiste collectivement, on est en train de dire à tout le monde, bien, vous pouvez être qui vous êtes. Ça peut générer vraiment peut-être une meilleure place à des émotions plus positives, surtout un sentiment de solidarité, un sentiment de communauté.
Les individus et la collectivité jouent donc tous deux un rôle pour nous permettre de constater la détresse, de reconnaître que nous avons un problème, individuel ou collectif, là encore. Mais la collectivité, c'est large comme idée. Ça inclut des groupes sociaux, comme la famille, mais aussi des entreprises ou des organisations. Parmi ces dernières, certaines endossent des responsabilités particulières quand la détresse s'exacerbe. Professeur au département de communication, Olivier Champagne-Poirier applique ses connaissances pointues en méthode de recherche à des projets liés à la communication de crise et du risque. En gros, son équipe et lui s'intéressent à la manière dont les institutions communiquent dans les situations tragiques, effrayantes ou collectivement traumatisantes. Parmi les institutions qui retiennent leur attention, les médias occupent une place de premier choix, parce qu'ils ont un rôle de premier plan. Quel problème l'équipe constate-t-elle?
Nous, ce qu'on voit dans nos études, c'est qu'il y a un fort lien entre communication puis bien-être. Avec ma collègue Marie-Ève Carignan, qui est de l'autre bord du couloir, mon collègue Marc Desdavid, qui est au bout du couloir, dans notre étude sur les attentats terroristes, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait une forte association entre religion musulmane et terrorisme. On allait parler que quelqu'un est musulman, ben comme si c'était un synonyme de dire quelqu'un est un terroriste. Ça, c'est un bon exemple de manquement déontologique parce qu'il y a une incitation à la haine envers une grande portion de la population mondiale parce qu'on cible leur religion. Donc, on cible pas nécessairement leur action, mais on vient dire que leur religion est liée à des actions terroristes. Je donnais une conférence dans une université française, puis les gens qui m'écoutaient, ils disaient « Ben non, tu sais, c'est factuel, ces personnes-là sont musulmanes, donc ça serait pas un manquement. » Là, moi, de leur dire « Ben, quand, disons, il y a un tueur aux États-Unis, disons, un blanc, est-ce qu'on va dire qu'il est catholique, que c'est quelqu'un de chrétien, est-ce qu'on va dire que c'est quelqu'un de baptiste? Jamais. Oui, c'est factuel, mais est-ce que c'est pertinent à la nouvelle? Non. » Puis c'est une classe d'étudiants en communication. Puis même ce qui constitue un manquement, bien, c'est pas clair. Par exemple, quand il y a eu les attentats au Parlement d'Ottawa par Zeaf Bibo, qui avait fait feu sur Nathan Cirillo, qui était à la sécurité du Parlement, il y a par exemple des journalistes qui ont vraiment harcelé les parents de Zeaf Bibo, que là, on publiait sans le consentement des familles des extraits d'entrevues. Puis, fait que ça aussi, tu sais, faut se dire que dans un contexte de crise, un contexte de catastrophe ou un contexte d'attentat, ben les familles peuvent être considérées comme des populations vulnérabilisées. Puis, on peut aussi voir que quand il y a une crise, quand il y a une catastrophe, il y a une urgence de couvrir. Puis, c'est là qu'on se rend compte que le manque de distance avec ce qu'on couvre, ben ça invite à des glissements. Par exemple, on fait des interviews sur le terrain, puis là, il y a quelqu'un qui vient dire « Ah, c'est encore, par exemple, là, des musulmans. » Après, le journaliste devrait s'interroger à savoir « Est-ce que je vais donner une tribune à ces propos-là ou non? » Mais des fois, on va dire « C'est tout ce que j'ai. » Let's go. T'sais, il faut que je sorte du contenu. Donc, on l'utilise. L'espèce de course effrénée là, dans laquelle sont les journalistes, avec de plus en plus d'enjeux à couvrir, de moins en moins de ressources. Ça aide pas à avoir l'espèce de distance critique pour juste prendre un petit pas de recul puis dire, est-ce que ce que je suis en train de produire, c'est éthique? Je suis en train de contribuer davantage à la polarisation sociale qu'à la cohésion sociale. Sinon, il y a des pratiques qui sont un petit peu plus subtiles, dans le sens que, dans notre conception, on voit les médias comme contribuant à co-construire la sphère publique. À ce titre-là, ben, les médias peuvent venir renforcer ou diminuer l'importance de modèles sociaux. Par exemple, quand on s'intéressait à la couverture de catastrophes naturelles au Canada, ben, on s'intéressait à comment les personnes aînées étaient cadrées dans ces articles-là ou comment les enfants ou la jeunesse étaient cadrés. On va voir les personnes aînées comme incapables de même s'occuper d'eux-mêmes. Par défaut, on va les mettre dans des postures de victimes, on va les mettre dans des postures où ils sont dépendants de l'aide des autres. Plus souvent qu'autrement, on va désigner les enfants comme des biens matériels. Puis une responsabilité des adultes de dire, bon, ben quand il y a une catastrophe, c'est les parents qui doivent pacter la voiture avec quelques possessions, le chien puis les enfants. Quand on pense à la pandémie de COVID-19, là, on a étudié la couverture au Canada pendant la première année de pandémie, puis on s'est rendu compte que les populations les plus vulnérables au virus, donc par exemple les personnes aînées, les personnes sans-abri, occupaient une place plutôt petite dans des articles de presse. Fait que ça, quand on pense à le rôle que peuvent jouer les médias pour nous aider à outrepasser une crise, il faut se questionner. Ce qui permet de limiter au plus la propagation du virus, c'est que les gens comprennent que c'est un virus, qu'il y a des risques de transmission, puis que c'est des risques qui sont physiques. Mais quand ce qu'on dit, le plus grand risque à la pandémie, c'est l'inflation, par exemple, les plus grands inconvénients, c'est le fait que tu peux pas aller au gym, que tu peux pas aller au resto, que tu peux pas aller au bar. Mais là, tu te mets, en tant que public, à peut-être moins facilement intérioriser les risques physiques. On va dire, ben, c'est ça qui m'affecte le plus de la pandémie. Il est temps que ça finisse, il est temps qu'on lève les mesures, il est temps. C'est la construction même du risque lié à la catastrophe qu'on est en train de traverser qui est influencée par les médias.
La construction du risque, c'est toute l'image qu'on s'en fait, la manière dont on le comprend. Ça influence tout, de notre lecture des obstacles aux solutions qu'on envisage. Olivier nous parle des médias et d'un horizon plutôt récent. Son équipe étudie des crises survenues dans les 10 dernières années. Mais quand on prend un pas de recul, on se rend compte qu'une autre institution a joué un rôle essentiel dans la prise en charge de la détresse, l'Église. Sauf que, comment dire, l'Église a mis un certain temps à constater que sa vision du risque gagnait peut-être à changer. Maurice Demers est professeur au département d'histoire. Il s'intéresse d'abord et avant tout aux relations internationales, notamment entre le Canada et l'Amérique latine. Dans ce cadre-là, il a aussi travaillé sur les droits humains par l'entremise d'un projet de recherche sur le missionnariat. Quand je le rencontre, je veux d'abord savoir comment l'Église a envisagé sa responsabilité face à la détresse à travers le temps.
Pour gagner son ciel, on doit porter assistance, on doit faire la charité chrétienne. C'est pas surprenant pour cette raison-là, quand les ordres monastiques ont commencé à se créer, que plusieurs se sont dédiés à une cause en particulier. Donc, l'Église va se charger essentiellement dans beaucoup, beaucoup de sociétés, du social, donc des soins médicaux, de l'éducation aussi. Ça va être comme une première mission pour l'Église. Ça va durer des siècles. Après tout, les instituts médicaux au Québec ont des origines catholiques. C'est quelque chose de traditionnel. Par contre, les religieux le faisaient pour gagner leur ciel. L'objectif principal, pendant des siècles, c'était pas tellement ou pas nécessairement de soigner la maladie directement. Ce qu'on veut d'abord et avant tout, c'est convertir. Même les croisades pouvaient être présentées comme d'une certaine façon charitable parce que on va sauver l'âme des autres en les convertissant. C'était la même chose avec la colonisation des Amériques. C'était présenté de cette façon-là. La meilleure façon de sauver l'âme des Autochtones, c'est de les convertir. Des fois, la meilleure façon de convertir, c'est d'obliger les gens à faire des travaux. C'est sûr que c'est perçu aujourd'hui comme étant essentiellement très hypocrite pour des très bonnes raisons. La Révolution française, où on commence à percevoir que dans le fond, dans le pacte social, l'État devrait avoir aussi à sa charge d'assurer le bien-être de la population. Et ça passe par assurer justement les soins de santé, assurer l'éducation La réflexion commence à l'émerger et tout au long du 19e siècle, justement, le rôle de l'État va agrandir. Et quand on arrive au 20e siècle, ben, il y a aussi des grands événements qui font prendre conscience qu'on a besoin de s'attarder à certaines problématiques. Les deux guerres mondiales ont été, oui, des événements horribles, mais quand on regarde au point de vue des droits des citoyens, ont aussi été des moments où il y a eu des avancées significatives. Quand on pense au vote des femmes, entre autres, à la sécurité sociale, tout simplement, parce qu'avec les blessés de guerre, on avait besoin d'une certaine prise en charge. Le gouvernement n'a comme pas eu le choix là, de créer certaines choses. La réflexion sur la pauvreté évolue, et ça, c'est essentiel. Dans l'Église catholique, la pauvreté est valorisée. Les religieux font vœu de pauvreté, donc la pauvreté n'était pas nécessairement vue comme un problème. Donc, l'Église a eu ça pendant très, très longtemps. Par contre, il peut avoir aussi une autre lecture qui s'est manifestée d'une façon très évidente au 16e siècle avec Bartolomé de Las Casas, par exemple. Puis, par la suite, plus qu'on avance dans le temps, il va y avoir un peu plus de gens qui vont plutôt dénoncer les injustices. Poser comme question, c'est pas tant qu'on veut faire la charité chrétienne qu'on veut régler un problème. S'il y a un problème de pauvreté, ben pourquoi on règle pas le problème de pauvreté au lieu de donner un repas à quelqu'un qui en a pas? Quand on arrive aux années 60, c'est des années où on va avoir les rencontres de Vatican II. Ça réunit là tous les archevêques du monde entier. Ça va redéfinir comment on voyait la pauvreté. Dans le sens qu'on mentionnait, oui, il faut faire vœu de pauvreté, mais en même temps, des enfants meurent de faim ou que les parents n'ont pas d'argent pour les traiter, etc. Donc, il faut distinguer entre deux types de pauvreté. La pauvreté spirituelle où devant Dieu, on est comme dépouillé, mais la pauvreté qui est matérielle, qui a des conséquences horribles, on peut pas dire que ça, c'est voulu par Dieu, là. Et là, il va y avoir justement une évolution. Traditionnellement, surtout en Amérique latine, l'Église œuvrait, mais surtout au bénéfice des familles riches. Puis la population, plus en région, qui était plus racisée, peut-être qui pratiquait un peu moins, d'autant plus qu'il y avait un très grand déficit de prêtres. Mais on va commencer, dans les années 60, à vraiment cibler cette population-là. Puis en 68, dans leur rencontre à Medellín, ils vont décréter l'option préférentielle pour les pauvres. C'est-à-dire que l'Église devrait œuvrer d'abord et avant tout pour ceux qui n'ont pas de moyens. À ce moment-là, il va vraiment avoir un basculement, puis il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont œuvrer dans cette optique-là. Puis ça va mener à la théologie de la libération. J'ai un missionnaire, Claude Lacaille, pour ne pas le nommer, j'ai passé en entrevue, puis il me racontait, il disait, tu sais, on avait une théologie pour la charité, ça a toujours existé. On n'avait pas une théologie pour tenter de régler les injustices. Mais là, la théologie de la libération, c'était ça l'objectif. On déclarait les structures injustes comme étant des structures de péché. Donc, l'objectif, c'était vraiment là, de s'attaquer aux structures très discriminatoires. Puis effectivement, en Amérique latine, c'était les sociétés où les écarts de pauvreté et de richesse étaient les plus grands. Ils le sont encore aujourd'hui. Donc, c'est une autre façon de penser la religion.
Cette idée de lutter contre les injustices, je la croise dans une autre conversation, à mille lieues de la religion et de l'Église. Elle est là quand je discute avec Alexis Turcotte-Cavana, Laurie Léréger et Camille Péloquin de leur motivation pour étudier en travail social et de leurs expériences en relation d'aide.
Je trouvais que j'avais été vraiment chanceux dans ma vie. J'arrive d'un milieu quand même aisé, il n'y a pas beaucoup de problématiques de santé mentale dans ma famille. Je considère que je suis quelqu'un de heureux dans ma vie. Dès que j'ai commencé à travailler avec des personnes qui, surtout en protection de la jeunesse, eux avaient vraiment eu des difficultés, j'avais un petit sentiment de dette envers eux. Mm. Un sentiment que j'en ai tellement reçu que faut que j'en donne aux autres aussi.
Ce qui m'interpelle, c'est vraiment la vulnérabilité qui se trouve derrière les contacts qu'on a avec les autres. D'être dans un environnement où la personne va se sentir en sécurité puis qu'elle va pouvoir s'ouvrir sur ce qu'elle vit puis nous faire confiance puis qu'on va pouvoir l'accompagner.
T'sais, je me souviens qu'à 12 ans, je me voyais être psychologue. Ça m'a toujours interpellée aussi la défense de droit. Je savais juste pas que ça s'appelait de même, là, mais dès qu'il y avait un cas d'intimidation dans mon école, j'étais prête à aller me battre contre du monde là, pour défendre celui qui se faisait battre par les autres. Fait que j'ai toujours eu vraiment cette urgence d'agir pour défendre les personnes opprimées.
Comme Camille, Laurie et Alexis se sont rêvés, enfants, en psychologue adulte. Si vous aimez aider les autres, l'idée vous a sûrement traversé l'esprit. En tout cas, elle a traversé le mien. Même si leur chemin diffère de leur rêve d'enfant, Camille, Laurie et Alexis se réjouissent de travailler en relation d'aide. Après tout, aider, ça se conjugue à plusieurs temps et sous plusieurs modes. Mais ça veut pas dire, parce qu'on aime notre travail, que tout est toujours facile.
Le fait de travailler tout le temps avec des personnes qui ont des difficultés puis qui sont en difficulté, ça vient jusqu'à un certain point jouer sur comment on se sent nous autres aussi en revenant chez nous le soir. C'est important d'avoir un bon moyen de justement passer par-dessus ça en revenant chez toi puis tout ça va te changer la tête. Tu travailles avec du monde qui sont en souffrance.
Mm-hmm.
Mais on est des personnes empathiques qui reçoivent beaucoup de la souffrance des autres. Puis qu'il faut apprendre à gérer ça.
Pendant la pandémie, ma propre santé mentale a été vraiment impactée. Moi-même, je vivais de l'isolement. C'était une période dans ma vie où la plupart des gens autour de moi avaient fini leurs études. Fallait que je me refasse un réseau d'amis en contexte de pandémie. Tout ça faisait en sorte que mes propres défis personnels étaient vraiment plus importants que ce que j'avais vécu dans les années précédentes. Puis là, fallait que j'aide des gens qui me décrivaient, qui vivaient de l'isolement, qui se sentaient seuls chez eux, que la seule personne qu'ils voyaient dans leur journée, c'était moi. Puis là, j'étais comme, ben, crime, moi, dans ma journée, la seule personne que j'ai vue, c'est vous.
Un défi, c'est nos propres blessures qu'on a en tant qu'humain. Tu sais, des fois, on va être confronté à ça dans les interventions qu'on fait, puis ça peut nous amener à réagir plus fortement à quelque chose qui ne nous appartient pas nécessairement au final. Il y a toute la connaissance de soi-même, avoir une bonne introspection, puis avoir travaillé sur soi, je trouve, avant de pouvoir intervenir auprès des autres.
Quand nous-mêmes, on a des idées par rapport au système dans lequel on vit, puis je veux pas le travail social, c'est une des professions en relation d'aide qui intègre le plus cette conscience-là du système macro-social dans lequel on évolue. On n'intervient pas juste avec l'individu ou l'individu puis sa famille. On va vraiment comme prendre en considération tout le contexte. Pis je trouve que ça ajoute une dimension qui est des fois difficile parce qu'on finit par avoir une opinion par rapport à ce contexte-là. Dans quelles circonstances qu'on fait de l'éducation populaire, donc on va comme partager certaines connaissances, certaines réflexions par rapport à ce système-là, versus à quel moment je tombe dans mes valeurs personnelles puis il faut que je les garde pour moi.
Une autre chose qui peut être vraiment difficile quand on travaille en relation d'aide, quand tu fais des interventions auprès d'une clientèle qui, après l'intervention, va décider elle-même de ce qu'elle va faire, mais à ce moment-là, va se mettre elle-même dans le chenoute, tu refais ton intervention, se remet dans le chenoute. Ça revient souvent avec des problèmes de santé mentale, cette situation-là, mais ça, c'est très difficile, ces intervenants. Mm-hmm. Puis il faut se recentrer sur qu'on est responsable de l'intervention, pas du résultat.
Mm-hmm.
Parce que sinon, ça nous gruge tellement d'énergie de se dire « ça n'a pas marché ce que j'ai fait ». Mais non, mais tu l'as fait.
Mm-hmm.
Là, après, c'est plus ton pouvoir.
Et moi, c'est plus de vouloir plus que la personne même. Je me suis surprise à agir comme ça parce que je vois le potentiel de la personne, je vois ce qu'elle peut faire pour s'améliorer puis vivre les bienfaits. Fait que là, ça a été de prendre conscience de ça puis de réadapter mes interventions, réadapter ma façon d'approcher la personne aussi, de prendre un pas de recul puis d'observer ça.
Connaître, c'est à la fois connaître la réalité dont on parle, les outils disponibles et les limites qui nous encadrent. Et c'est se connaître aussi. Comme le mentionne Laurie, ça demande parfois une pause et une perspective différente. Prendre un pas de recul et observer concrètement l'application de la déontologie dans le milieu journalistique. Olivier et son équipe l'ont fait.
Là, on tombe dans l'éthique. Il n'y a pas de vrai ou faux. Ce qui est éthique, ce qui est socialement acceptable, ça évolue au fil du temps. C'est pas compris de la même façon pour tout le monde. Généralement, on va demander aux journalistes d'opérer dans le respect des populations vulnérables, d'avoir un devoir là, d'exactitude, de pas faire des couvertures qui peuvent inciter à la haine, par exemple. Il y a vraiment comme une structure professionnelle qui vise à assurer que le travail des médias se fait dans une certaine forme de respect des êtres humains envers lesquels ils communiquent de par leurs articles, de par les nouvelles qu'ils vont produire. Nous, ça a quand même été une surprise de voir à quel point certains manquements étaient présents de façon plutôt importante. Tu sais, quand on avait fait un projet où on avait analysé les guides déontologiques dans 5 pays pour voir c'est quoi les principes qui s'appliquent à la couverture d'attentats terroristes, puis après, on s'était servi de ces principes-là pour analyser les articles qui avaient été publiés des suites d'attentats là, dans les 5 pays.
Canada, États-Unis, Angleterre, France et Belgique. Voilà les 5 pays sur lesquels l'équipe s'est penchée. Mais même avec une grille d'analyse adaptée à chacun, Les résultats sont inquiétants.
Des éléments faux présentés tels des faits avérés, ben on voyait ça dans presque 7% des articles qu'on analysait, là, dans les milliers d'articles qu'on analysait. De l'opinion qui n'est pas présentée comme de l'opinion, si on voyait ça dans un article sur trois. La mise en scène non consentie des victimes, on voyait ça dans 12% des articles. L'association de la religion musulmane à l'extrémisme violent, ça c'était présent dans environ 32% des articles. Fait que c'est pas marginal. Quand on est face à des catastrophes et à des crises qui sont chargées émotivement aussi, c'est sûr que la balance objectivité-subjectivité est plus dure à maintenir. Quand ça fait mal, je dis que les journalistes sont humains, hein.
À ce moment-là, je pense d'abord qu'on en demande beaucoup aux journalistes. Puis en continuant à écouter Olivier, j'ai en tête la phrase popularisée par Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que son équipe s'est aussi intéressée aux réseaux sociaux d'organisations responsables de santé publique, comme l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, pendant la première année de la pandémie. Vous allez vite comprendre pourquoi Peter Parker me vient à l'esprit.
Un de nos gros constats, ça a été que là où le bât blesse, c'est dans la considération de Facebook. L'OMS semble croire que Facebook, c'est un média diffusionniste. Donc, un peu comme quand on publie un article, de dire « moi, je vais venir faire une publication, je la diffuse, puis après ça, j'ai plus de responsabilité par rapport à ça, ça s'arrête là. » Fait qu'on s'est rendu compte que l'OMS utilisait un média de communication, qui est Facebook, un média qui a pour but de mettre en relation, mais c'était pas utilisé comme ça. Ce qui fait en sorte que quand on analysait les commentaires qui découlaient de bonnes publications, de publications très solides, on trouvait des gens désespérés qui s'adressent aux leaders mondiaux en matière de santé en posant des questions par rapport à comment on doit agir dans le cadre de la pandémie, puis sans réponse de l'OMS. Dans ce projet-là, on a analysé plus de 200 000 commentaires qui avaient été faits sous les 500 publications là, environ qu'avait fait l'OMS dans la première année de pandémie. Puis on a retrouvé, de mémoire, là, 8 rétroactions de l'OMS seulement. Ce qui fait en sorte qu'il pouvait avoir de la rétroaction, mais pas de l'OMS. Quelqu'un qui dit, ben, ça va pas, j'ai des idées noires, par exemple. Il pouvait avoir quelqu'un qui adhère, par exemple, à une pensée plus conspirationniste en disant « laisse pas ça t'affecter, c'est juste des mensonges ». Donc, l'OMS, en n'utilisant pas Facebook comme un média de communication, bien, a ouvert la porte à des intérêts concurrents. Le pouvoir principal de l'OMS, c'est un pouvoir qui est communicationnel. Ce qui fait que quand on voit des lacunes comme ça sur même la compréhension de ce qu'est un média aussi commun que Facebook, là, on se dit « Oh, il y a des grosses lacunes ». Puis quand on a parlé à certaines personnes de l'OMS, on se rend compte qu'il n'y a pas de ressources. Nike, ils lancent une nouvelle paire de chaussures. Ils vont avoir tout leur monde au marketing qui vont suivre tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Puis ils vont dire « Ah, merci ». Ils vont vraiment faire attention. Mais quand on parle d'un leader mondial en matière de santé, bien pas du tout. Est-ce que c'est de la communication responsable qui a été faite selon nos résultats? Non. Mais après, on voit certaines autorités, comme en Belgique, où eux, ils étaient très, très réactifs. Donc, quelqu'un publiait, on dit, voici un lien pour aller répondre à tes questions, puis stay safe. Puis, mais les autorités qui comprennent puis qui mettent les ressources, ça peut être un outil super intéressant en temps de crise. Tout comme, faut pas juste se dire, c'est gratuit, puis ça rejoint plein de monde. Fait que let's go, on publie, mais on met pas vraiment de ressources pour monitorer ce qui découle de ces publications-là. Nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que cette pensée-là devient même dangereuse en temps de crise.
J'ai comme envie de compléter l'adage. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et à grande responsabilité, grands moyens. On ne peut pas demander l'impossible, ni à des employés de l'OMS, ni aux journalistes. Pas sans ressources à la hauteur de nos exigences. Certains groupes de l'Église se sont donné les moyens de connaître mieux la réalité des gens dont ils voulaient se rapprocher, même si leurs objectifs réels n'étaient peut-être pas si catholiques.
Je pense entre autres aux Oblats qui travaillaient en Amérique du Sud. Beaucoup voyaient que pour rejoindre les mineurs, les familles qui travaillaient dans les mines, il n'y avait pas beaucoup de succès. Puis, dans le fond, les syndicats communistes avaient plus de succès. Dans un premier temps, ça va être un peu pour combattre le communisme. On va envoyer des religieux travailler dans les mines directement, tenter de partager plus la vie des travailleurs. Mais en faisant ça, eux aussi ont comme été convertis. On voulait convertir, mais c'est un peu l'inverse qui est arrivé. Puis, on va vraiment avoir là, des groupes qui vont défendre les droits des travailleurs, puis qui vont même réaliser que, dans le fond, dans le socialisme, il y a beaucoup de points en commun avec le catholicisme, surtout tout cet aspect communautaire.
Ce contact fécond du point de vue de l'empathie et de l'entraide, Philippe l'a aussi expérimenté. Pas au fond d'une mine, heureusement, mais dans une salle de classe.
Je me rappelle, j'ai déjà donné un cours sur la prévention du suicide, et il y a une étudiante qui était très, très angoissée. Elle vient me voir, elle dit « Mais je reconnais quelqu'un de proche là-dedans, qu'est-ce que je fais? » Puis j'ai été le proche d'une proche, donc j'ai pu dire « Regarde, on appelle ensemble, sans prévention du suicide, te mettre en contact avec. » J'ai vraiment accompagné cette personne-là, qui, elle, a pu ensuite accompagner la personne de qui elle était inquiète. Et justement, elle a été très bien accompagnée, comment poser les questions, comment réagir. La responsabilité individuelle, ça peut être de connaître les services, qui fait quoi. Parce qu'on a beau dire, ah ben oui, je sais quoi, un centre de prévention suicide, mais il y a plein de gens qui pensent que c'est juste les personnes suicidaires qui peuvent appeler là. Alors que la personne suicidaire, elle peut très bien se dire, je ne crois plus à l'aide. Les centres de prévention suicide offrent du soutien aux personnes proches. Et c'est quand même une bonne partie des gens qui font appel à leur service. C'est justement, je suis préoccupé par une personne, qu'est-ce que je peux faire? Encore faut-il que les ressources soient disponibles, accessibles. Le réseau public et communautaire, bon, oui, ça arrive qu'il y a des listes d'attente, mais il y a aussi des activités qu'on peut avoir pendant ce temps-là. Il y a des relances téléphoniques, le matériel pour développer ses connaissances, des autotests pour se regarder aller, des informations d'auto-soins qui ne remplacent pas la relation d'aide, mais qui viennent la bonifier. Ça fait partie des pistes de solution. Mais on parle souvent d'accès, comme c'était juste une question d'horaire et de liste d'attente, mais l'acceptabilité sociale, elle est super importante. À un moment donné, dans une entrevue de recherche, quelqu'un me disait « Un mécanicien, il peut m'expliquer sa job. Je vais comprendre. Travailleur social, ça jase. Pourquoi c'est une job de jaser? » Premièrement, l'idée d'arrêter de ruminer, puis de ventiler, puis aussi d'avoir un accompagnement, une saine confrontation, où est-ce qu'on peut à la fois responsabiliser la personne et la soutenir. Donc, de s'outiller pour mieux passer au travers, puis d'utiliser l'intelligence collective, que ce soit en relation d'aide avec une personne, un intervenant, une intervenante, ou en intervention de groupe, parce que l'intervenant, l'intervenante, c'est pas juste cette personne-là, mais aussi là, le bagage des autres personnes qui l'accompagnent dans son intervention. Et les gens qui sont en intervention de groupe, c'est beau de voir ça aller, le fait de normaliser ce qu'ils vivent et de partager des solutions ensemble. Moi, j'avais vu, par exemple, auprès des agriculteurs, ceux qui étaient déjà allés demander de l'aide vont retourner en demander et vont devenir des excellents ambassadeurs. Donc, le fait d'une expérience positive dans le passé, ça va beaucoup aider. D'avoir des témoignages, d'avoir des gens dans l'entourage, justement, qui ont une vision positive de ça, qui ont des expériences positives, qui en parlent. T'sais, c'est pas pour rien qu'on demande à des personnalités publiques de dévoiler, t'sais, qui ont déjà demandé de l'aide, pour encourager les gens qui sont peut-être plus isolés.
Parler de nos expériences de relations d'aide signifie les rendre acceptables et peut-être plus facilement envisageables pour qui hésite à se lancer. Mais comment nous y prendre? Comment formuler nos idées pour qu'elles soient entendues le plus possible?
Faut trouver le bon moment, les bons mots, peut-être même aussi la bonne personne. Je suis inquiet pour quelqu'un. Sur quoi s'appuie cette inquiétude-là? C'est quoi les gestes observable? Est-ce que la personne a eu un changement dans son comportement qui est marqué? Puis qu'est-ce qui nous laisse croire que c'est problématique? De pouvoir le formuler, de pouvoir le partager, cette préoccupation-là, de dire si, par exemple, c'est quelqu'un qui dit « Écoute, t'as l'air d'avoir beaucoup moins d'énergie que d'habitude, t'as l'air d'avoir moins d'intérêt pour tes activités, plus souvent de colère, plus souvent de consommation d'alcool, de drogue, de jeux pathologiques. Quand je vois ça, ça m'inquiète. » Et donc, de le formuler à la personne, des fois, ça fait un reality check, comme on dit, où est-ce que la personne ne se regarde pas aller, mais dit « Oh, voici ce que les autres perçoivent. » Puis, de peut-être mettre l'accent sur la possible souffrance. J'ai l'impression que ça n'a pas l'air facile, ce que tu vis. Et non pas tout de suite aller vers le changement de comportement. C'est-à-dire, faut que tu changes. Allons vers l'émotion avant. T'sais, passons des faits à l'émotion, puis après ça, la suite des choses, ce sera la personne de regarder ça avec elle. Mais une erreur, souvent, c'est de sauter les premières étapes, puis tout de suite, aller dire à la personne quoi faire. pas grand monde qui aime ça se faire dire quoi faire sans qu'il y ait un petit préambule. Et des fois, on peut se poser la question, est-ce que je suis la meilleure personne pour aborder ça? Il y a peut-être une personne de confiance qui peut entrer en jeu là-dedans. Si on est plus préoccupé que la personne, ben c'est peut-être la personne proche qui a intérêt à être soutenue là-dedans. Puis peut-être, on va avoir besoin de ventiler, on va avoir un autre point de vue qui va peut-être changer la perspective sur la situation de la tierce personne. Donc, ça se peut qu'on apaise certaines craintes en ventilant soi-même comme personne proche. Quelque chose que j'avais observé dans une recherche auprès des agriculteurs sur la santé mentale, puis c'était le conflit aidant-aidé. Je leur demandais, si t'as un ami qui va pas bien, qu'est-ce que tu peux faire? Et là, c'était toujours, arrêter ce que je fais, prendre le temps de l'écouter, l'accompagner, tout ça. Et si toi, tu vas pas bien? Et là, j'entendais un silence, puis là, ils cherchaient. Mais attends, tu viens de me dire qu'est-ce que tu ferais pour un autre, mais c'est difficile de l'appliquer à soi. Je suis le premier à offrir de l'aide, mais je suis le dernier à en demander. Donc ça, pour l'entourage, si on veut comprendre, des fois, certaines résistances de dire, et si toi, on te dit d'aller chercher de l'aide, est-ce que tu irais? Et c'est là où ça peut être intéressant de dire oui, ne serait-ce que parce que, un, souci de cohérence, puis deux, être soutenu comme on voudrait que les autres le soient.
Là, Philippe utilise l'expression « walk the talk », que les bottines suivent les babines. Quand on intervient auprès de gens en détresse et qu'on se connaît bien, parfois, suivre les babines, ça signifie dire non.
Il y a certains enjeux, certaines problématiques sociales pour lesquelles je ne suis pas la bonne personne pour être intervenante parce que ça vient trop me chercher. C'est vraiment important, de savoir identifier les situations où il faut référer à un ou une collègue. Il ne faut pas appliquer pour cette job-là. Il faut, je pense, connaître ses zones de vulnérabilité parce que, pour vrai, en intervention, on peut nuire aux gens si on n'est pas à l'écoute de nos propres limites.
Il faut vraiment avoir une belle affirmation de soi pour être capable de mettre ses limites au départ. Puis quand tu t'affirmes, puis que tu as une équipe qui te soutient en arrière de toi, tu vas avoir une plus belle affirmation de toi parce que tu vas avoir confiance en comment ton équipe va réagir par rapport à ta décision de ne pas prendre des dossiers qui sont trop difficiles.
C'est pas grave de ne pas être capable de tout faire. On n'est pas des super-héros. Il faut se l'avouer, il faut l'avouer à nos collègues, puis c'est correct. Puis j'ai envie de parler du fameux travail émotionnel. En prenant conscience de ce que la situation nous fait vivre, bien, on essaie de canaliser ça autrement, puis d'agir à l'inverse de comment on se sent à l'intérieur de nous. C'est pas vraiment de pousser notre émotion pour ne pas la vivre, mais juste de la remettre à plus tard, puis la revivre à un autre moment avec ses collègues ou avec toi-même, avec tes amis, ta famille. De canaliser ça, là, puis de te protéger. C'est une façon de se protéger.
Ouais. Le premier dossier que j'ai lu d'inceste à l'enfance dans mon bureau, j'ai braillé une chute. Puis après ça, je me suis dit, bien là, Camille, il y en a d'autres, des gens comme ça, que tu vas côtoyer, puis tu pourras pas brailler devant eux quand ils te racontent leurs histoires. Mais je pense qu'il y a comme un détachement qui se fait parce que ça serait pas humainement possible d'être dans l'intensité de cette émotion-là à tous les jours. Ça veut pas dire que ça me touche plus. C'est comme si c'était une autre partie de mon cerveau qui est enclenchée, tu sais. Ça vient plus comme connecter avec mon cœur à chaque fois.
Tu peux pas aider si t'es tout le temps envahi par des émotions.
Exact.
Tu vas tout le temps avoir besoin de pleurer devant un client. La personne va se sentir mal de t'avoir fait pleurer. Elle voudra plus jamais rien dire. Donc, il faut vraiment faire attention à ça.
Mm-hmm.
Détachement, travail émotionnel, protection, limite. À ce moment, je veux savoir si, à force d'adaptation, leur travail les change. Si être confronté à la détresse des autres leur fait perdre quelque chose.
On fait déjà ça au quotidien. Tu n'agis pas de la même façon avec ta mère, avec ton meilleur ami, avec ton chum. On s'adapte à plein de situations différentes. Nous, on le fait dans un contexte professionnel d'aide puis de soutien envers une autre personne. Mais c'est déjà une aptitude qui est foncièrement humaine. Là. Au travers de ça, j'arrive à garder ma couleur. Puis même, je pense que je me découvre plus en tant qu'intervenante que je me perds. Moi, j'ai l'impression d'être plus en cohérence avec moi-même, en fait.
La cohérence, cette harmonie entre notre essence, nos objectifs et nos actions, même l'Église la recherche.
Les années 60, là, c'est des années où le mot « développement » devient comme le mot « pas la mode », qui est prononcé un peu par tout le monde, par les États-Unis aussi. Évidemment, ça vient jamais gratuitement, là. Ça se mêle un peu avec leur impérialisme. Et au sein de l'Église catholique, on est très confortable d'œuvrer dans des pays capitalistes, mais en même temps, il y a toujours eu une dénonciation de l'avarice et des excès du capitalisme. On est beaucoup plus porté sur le communautaire. Donc, on va proposer justement des solutions qui sont plus collectives. Au Québec, on va avoir la création de plusieurs coopératives. Et ça, c'est un modèle dont on va faire la promotion. Et quand on va aller au sud, c'est un peu ce modèle-là qu'on veut imposer. Donc, on va créer des coopératives, des caisses populaires, toutes sortes de ressources qui sont partagées par la communauté. Au début des années 70, à peu près tous les gouvernements sont dirigés par des dictatures militaires ou pas loin. Donc, c'est sûr que c'est un contexte aussi qui est très particulier. Il y a vraiment là une situation d'urgence où les jeunes avec lesquels certains religieux vont travailler, ben ils vont commencer à disparaître ou ils vont commencer à être ciblés par l'État. Donc, il y a vraiment des questions là, d'abus de la personne, des droits, mais très, très concrètes. La vie des gens est en danger. Et c'est dans ce contexte-là que beaucoup de personnes vont s'engager pour tenter de défendre au moins les personnes dans les pays concernés. Dans des communautés religieuses féminines, qui n'étaient pas nécessairement là, celles qui allaient prendre la parole pour dénoncer, pas du tout, là, mais plusieurs de ces religieuses m'ont confié justement que des gens qui fuyaient ont été cachés dans leur couvent. Ils savaient pas leur nom pour pas révéler quoi que ce soit. Là. Et ensuite, il y en a beaucoup qui ont œuvré dans la résistance. Des fois, c'est vraiment très simple. Certaines religieuses qui ont œuvré au Brésil pendant la dictature m'avaient raconté que souvent, pour accompagner un groupe qui habitait dans un bidonville, une favela, qui voulait avoir peut-être l'électricité, on demandait à la religieuse canadienne de venir avec eux parce que d'avoir une étrangère, ça leur donnait une certaine sécurité. Sinon, ça pouvait être réprimé violemment. J'avais mentionné Claude Lacaille tantôt. Lui a organisé aussi des manifestations au Chili alors que c'était complètement interdit. On ne pouvait pas se rassembler plus que 3 personnes, mais il en a fait avec quelques centaines. C'était permis parce que c'était des rassemblements religieux. C'est assez intéressant, puis c'est assez original. Il avait organisé un chemin de croix avec des stations, là, on prie. Puis, à chacune des stations, il donnait la parole à quelqu'un qui avait perdu un proche. Il parlait de, disons, de Marie, puis il trouvait que Marie avait vécu la même chose que... Évidemment, c'est un message qui était très politique, mais qui, en même temps, était religieux aussi. Donc, ça permettait d'outrepasser certaines restrictions.
À coup de constatations, de connaissances et d'actions, tantôt individuelles, tantôt communes, le rôle d'institutions comme l'Église a donc changé. J'ai demandé à Olivier ce qui change dans le monde journalistique. Sa réponse, en un mot, beaucoup. Chaque crise suscite des réflexions sur les responsabilités médiatiques. Ça a été vrai pour la pandémie de COVID. Ça l'est aussi pour la crise climatique. Ces deux événements, entre autres, remettent en question le journalisme d'information qui vise une actualité décrite de la manière la plus neutre et objective possible.
Dans les années 90, les journalistes, dans leur poursuite de la neutralité, se disaient « si je couvre le côté de la science, de dire il faut qu'on pose des actions pour contrebalancer les changements climatiques ou l'humain est responsable des changements climatiques, je dois aussi couvrir le côté opposé, par exemple le climato-scepticisme ». Puis là, ça faisait en sorte qu'on disait, bon, ben on offre une tribune similaire à, d'une part, le consensus scientifique qui est 99,9% des experts pensent comme ça, mais on va offrir un traitement similaire à le 0,1% qui pensent différemment, ce qui donne l'impression au lecteur qu'il y a de la dissension, quand c'est pas du tout le cas. Il y a des médias en ce moment qui prennent la décision de dire, ben non, on couvre pas les deux côtés de la médaille, on inscrit notre couverture dans le consensus scientifique, puis nous, ce qu'on veut, c'est être un acteur de changement pour sortir de cette crise climatique-là, puis diminuer les impacts négatifs de la crise. Fait que là, il y a un nouveau paradigme de journalisme qui émerge, qui est le journalisme de solution. Dans la pandémie, on a vu des bonnes utilisations, certaines moins bonnes, qui le font en sorte que si on pense à se préparer pour des prochaines crises, parce que on le voit, les crises auxquelles on fait face s'intensifient puis se multiplient. Il faut qu'on commence à se dire, quand il va en avoir une prochaine, comment je vais fonctionner? Parce que il y a des erreurs qu'on a peut-être faites dans cette crise-ci, mais il ne faudrait pas les refaire.
Constater, connaître, agir. À ces 3 étapes, on peut en ajouter une, suggérée par les propos d'Olivier. Améliorer. Parce qu'on a cette chance incroyable de pouvoir apprendre et évoluer, tant dans nos organisations que comme individus.
On arrive dans les années 80, puis la chute de la pratique religieuse au Québec est très, très, très marquée. Donc, évidemment, tout cet élan-là de solidarité vers l'étranger, ben, va progressivement s'effondrer. C'est une histoire qui était intéressante, qui a donné des fruits pendant quelques moments, mais qui va s'amenuiser là, rapidement avec le temps. Mais il faut voir aussi que c'est une transformation. C'est clair que le message qui était porté par les religieux qui sont allés en Amérique latine, en tout cas, moi, je trouve que je reconnais ce message-là beaucoup dans certaines des causes portées par Québec solidaire. C'est pas tant influencé par la gauche traditionnelle que par cette conscience-là là, de lutter contre les injustices.
Juste d'améliorer des fois un peu notre écoute, ça peut faire toute la différence. Ça peut être vraiment juste dans le très léger, mais quelqu'un qui a juste besoin de faire sortir une situation, t'as pas besoin d'y trouver une solution. L'écouter, ça fait la plus grande des différences.
Mm-hmm.
Puis tout le monde est capable de faire ça pour le monde autour d'eux. Juste vérifier, hey, comment se passe ta semaine? Tu veux qu'on en parle un peu?
Moi, j'ai envie de dire, là, apprenez à connaître vos voisins. Ayons pas peur, allons vers les gens qu'on connaît peu. Essayons d'apprendre à les connaître ou juste d'interagir avec eux, d'être sur notre territoire puis de regarder qu'est-ce qu'il y a autour de nous puis de créer des liens parce qu'il y a beaucoup d'isolement, beaucoup de souffrance. Puis c'est pas tout le monde qui est chanceux de naître avec des gens autour d'eux, avec une famille aimante, des amis. Fait que juste de s'ouvrir à la différence puis aller vers les gens qui nous ressemblent peu, peut-être, de faire preuve d'ouverture.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, travailler sur la littératie émotionnelle à tous les âges, mieux faire connaître les services et passer à l'action. Donc, d'avoir l'humilité de dire « je ne réglerai pas ma situation seule, j'ai besoin des autres », ben ça, il faut passer par-dessus son ego. Et si on a l'ego qui est blessé, ben ça peut être particulièrement difficile. De là, la question avec quoi cette personne-là se débat. Et d'avoir l'humilité de dire, par exemple, quand on dit « ah, mais ça marche pas, j'ai tout essayé », ben, de compléter la phrase, « j'ai tout essayé ce que je connais », ah, il y a peut-être des choses qu'on connaît pas qui pourraient nous soutenir. Une phrase très sage qu'un agriculteur m'a dit, il y a toujours une solution qui se pogne là derrière à quelque part. Puis moi, j'ai complété, en étant bien accompagné, on va plus vite à sa rencontre. Oui, exactement.
La toile du parachute, le vol des bernaches, le filet d'un trampoline. Qu'elles soient fibres ou oiseaux, chaque partie de ces touts s'appuie sur ses pairs et les fortifie. Jusqu'à ralentir une chute, l'adoucir, puis la stopper. Jusqu'à l'envol, jusqu'au voyage salutaire pour tout le groupe. Et si nos responsabilités face aux autres sont à la fois individuelles et collectives, force est de reconnaître qu'elles se déploient souvent à partir d'un choix personnel. Tendre la main, partager un bout de chemin, prendre un risque. Voir en l'autre une partie de nous. Une parcelle de notre toile. Un morceau de notre envol. Vous avez aimé cette deuxième saison? Pour ne pas manquer la prochaine, abonnez-vous aux Histoires qu'on se raconte sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Merci aux spécialistes qui ont participé à cet épisode. Philippe Roy, de l'École de travail social, Olivier Champagne-Poirier, du département de communication, Maurice Demers, du département d'histoire. Merci aussi à Alexis Turcotte-Cavana, Laurie Lériger et Camille Péloquin pour le généreux partage de leurs expériences. Le texte d'introduction est lu par David Bergeron, technicien en informatique à la Faculté des lettres et sciences humaines. L'indicatif musical, Songes et réflexions, est signé par Joël Lupien-Faneuf, compositeur inscrit en développement et réalisation d'une production artistique à l'École de musique. Merci à Francis Martel-Filteau, diplômé du baccalauréat en musique, cheminement en composition et musique à l'image pour toutes les améliorations audio apportées à cet épisode. Je m'appelle Amy et vous avez écouté Les histoires qu'on se raconte.